ce dimanche, qui n'est quand même pas comme tous les dimanches, nécessite une petite explication quant à l'évangile qui a donné son nom au dimanche. Le dimanche qui précède Noël, c'est toujours le dimanche de la généalogie. Le dimanche dernier, nous avions le dimanche des saints ancêtres du Seigneur, et ici c'est la généalogie. Vous avez entendu l'évangile qui est toujours lu, qui est normalement lu assez rapidement, parce qu'il ne s'agit pas de méditer sur tous ces personnages de l'Ancien Testament qui ont précédé le Christ. Et pour la plupart d'entre nous, notre culture n'est pas assez étendue pour savoir ce qu'ils ont fait, quelles raisons ils sont dans cette généalogie. Et cependant, il suffit de les énumérer, de les nommer les uns après les autres pour rassembler tout le Vieux Testament, pour rassembler les époques qui ont précédé le Christ, pour nous qui ont annoncé, qui ont préparé la venue du Sauveur. Et en célébrant ce dimanche de la généalogie, on récapitule en quelque sorte, on réunit dans un mystère, dans le seul mystère de la venue du Christ, on récapitule tout ce qu'il a précédé, et par le miracle, par la mystique, si vous voulez, de la liturgie, toute cette récapitulation là est mise à notre disposition et nous fait entrer dans le même mystère. Je passe on en parle d'autres années, les raisons d'être de ces noms. Et tout, dans la généalogie du Christ, tous n'ont pas été des saints. Un personnage qui a été nommé, que vous avez en fresque, illustré en fresque sur le côté nord de notre chapelle, et il s'agit de Rahab. Rahab était une prostituée, et ce qui, évangéliquement parlant, n'est quand même pas complètement l'idéal, mais elle avait protégé les envoyés, les espions de Jésus, Jésus fils de Navé, c'est d'ailleurs celui qu'on appelle autrement Josué, et les avait cachés et les envoyés de ce Jésus fils de Navé sont les symboles des prophètes ou des apôtres, des prophètes et des apôtres qui ont été envoyés par l'autre Jésus, le Jésus le Christ. Rahab ayant caché ces espions, ces envoyés de Jésus, juste avant que ce Jésus ne prenne Jéricho, la ville de Jéricho, est le symbole aussi des enfers, si vous voulez, du royaume de la mort, dans lequel le Seigneur Christ Jésus est descendu pour ressusciter les morts. Elle a demandé le salut. Et les espions lui ont dit de mettre un fil écarlate à sa fenêtre, un fil de couleur rouge, vous voulez. Et vous verrez voir sur la fresque, le fil existe bien. Le rouge est évidemment symbole de royauté, parce que le Christ est roi, et symbole de sang aussi, c'est le vêtement des martyrs. Ainsi, en mettant le fil rouge à la fenêtre de son appartement de Jéricho, Rahab manifestait, prophétisait en quelque sorte le salut des païens qu'elle était par le sang de la croix que le roi de gloire devait verser en étant crucifié. Et ainsi elle apparaît dans la généalogie comme vous avez pu l'entendre, mais vous l'avez peut-être pas retenu. Et d'autres comme ça. Et d'autres sont encore moins, n'ont pas donné de marque de sainteté ou de foi, comme c'est le cas de Rahab. Mais ils ont été des chaînons dont le Seigneur s'est servi, des maillons dont le Seigneur s'est servi pour peu à peu faire mûrir son peuple, qu'il soit prêt à le recevoir lors de son incarnation. De peuples prêts à le recevoir, il a été peu nombreux. D'abord, ça a été le peuple juif qui était le peuple choisi. Et puis ensuite, parmi ceux-là, beaucoup, comme vous le savez, n'ont pas reconnu celui qui leur avait été annoncé, le Christ. Mais parmi eux, quelques sages, quelques pauvres selon Dieu, comme essentiellement, évidemment, la mère de Dieu, la Vierge Marie, ces générations successives ont préparé, la venue, de manière à ce qu'elle puisse être, à ce qu'il y ait une femme, c'est-à-dire un homme, si vous voulez, de sexe féminin, qui soit arrivé à la perfection humaine, de manière à pouvoir recevoir dans son sein la présence même de Dieu pour lui permettre de s'incarner, incarnation dont j'espère vous entretenir un petit peu cette nuit au moment du petit déjeuner. Toute cette généalogie nous amène donc à la nativité du Christ, nous amène donc à Joseph ou à Marie, suivant les évangélistes. Quand vous regardez l'icône de la nativité, ce que vous aurez l'occasion de faire cette nuit et les jours suivants, ou quand vous lisez les textes, quand vous entrez dans le mystère de Noël, vous voyez nettement que la nativité du Seigneur qui a lieu dans une grotte, dans l'ombre d'une grotte, le fond de l'icône est noir, dans le jeune enfant, le nouveau-né, Jésus, est allongé soi-disant dans une crèche qui a plutôt la forme d'un tombeau. Il est enveloppé de langes qui ont plutôt la forme de bandelettes, comme on verra au moment de la résurrection de Lazare, et comme les Égyptiens étaient enterrés, les plus nobles en tout cas. Il y a évidemment une similitude entre la nativité du Christ et sa mort et sa résurrection. Il est né pour assumer totalement notre condition humaine déchue, hormis le péché auquel il n'a jamais donné la moindre chose de lui-même. Il assume complètement notre nature humaine et va jusqu'à la mort, puisqu'on sait qu'il va être crucifié, qu'il va descendre dans les enfers et ressusciter. C'est la raison pour laquelle, déjà dans l'icône de la nativité, vous voyez le Christ dans un tombeau, enveloppé de bandelettes comme un mort, mais de bandelettes blanches, parce que c'est déjà la couleur de la résurrection qui tranche sur le noir de la grotte, des ténèbres de la grotte. Et en plus, vous savez bien que les trois mages venus d'Orient amènent de l'or, de la myrrhe et de l'encens, et vous entendrez rabâcher cette nuit que les trois mages leur présence est une véritable prophétie, puisqu'ils amènent de l'or comme un roi, comme une richesse qu'on offre à un roi, de la myrrhe et de l'encens que l'on offre pour embaumer des morts. Donc c'était déjà une prophétie de sa mort, et la myrrhe odorante évoque aussi ces parfums miraculeux, ce myrrhone qui sort des icônes ou du corps des saints, des reliques des saints, et évoque évidemment la bonne odeur du Saint-Esprit. Mais à quoi ça sert, si je puis dire? Mon expression n'est pas bonne, mais si nous ne faisons de Noël, du mystère de Noël, qu'un mémorial, un souvenir, un anniversaire que nous fêtons tous les ans, que nous ferons encore ce soir, cette nuit, ça ne nous apporterait rien. Le mystère, par contre, le mystère de l'Église, c'est que tout ceci, tout ce qui nous a précédé et tout ce qui suivra, est rendu miraculeusement présent, réellement présent, même si on ne le voit pas scientifiquement, physiquement, je veux dire. Néanmoins, à un certain niveau de notre existence, nous participons à ce mystère-là. Et que ce soit Rab ou que ce soit Jéroboam, Zorobabel, tous ceux que vous avez entendus tout à l'heure, que ce soit les mages qui viennent autour du tombeau, Joseph qui contemple aussi la nativité du Sauveur, les bergers ou tous ceux qui ont suivi, tous nous sommes par la foi et par le mystère de l'Église, par la vie de l'Église, nous sommes unis profondément comme les témoins et les bénéficiaires de cet unique mystère. Et ce à quoi ce mémorial que nous célébrons, cette mémoire, ce monument liturgique que nous allons célébrer cette nuit et que nous avons déjà célébré par la liturgie tout à l'heure, est une transfiguration. C'est-à-dire qu'à travers la petitesse de notre vie, nous sommes appelés, d'une manière effective, réelle, nous sommes appelés à devenir nous-mêmes la grotte de Bethléem. C'est chacun de nos cœurs, multiples, humainement parlant, mais unis en Christ, c'est chacun de nos cœurs qui sommes appelés à devenir la grotte de Bethléem, qui sont appelés à s'ouvrir exactement comme le sein de la Vierge Marie quand elle a reçu l'annonce de l'incarnation du Sauveur dans son sein, à notre tour, dans notre cœur. Il nous est donné de recevoir la présence vivante et transfigurante du Seigneur qui doit peu à peu s'élargir notre cœur et notre corps de manière en l'ayant contenu, en l'ayant reçu, à nous dilater à la grandeur de l'éternité à laquelle nous sommes appelés. Nous sommes appelés tous à vivre une vie éternelle. Et cette vie éternelle, elle commence chez nous par ce germe mis par le baptême en nous-mêmes et qui est appelé à croître, à s'agrandir comme le Christ s'est agrandi dans le sein de sa mère, la Vierge Marie. Ayez conscience de ça cette nuit en célébrant en venant à la Gripnie et en célébrant notamment la liturgie. Nous ne venons pas à la liturgie pour nous apitoyer sur la pauvre naissance d'un petit enfant dans une grotte mal chauffée où il était nécessaire d'avoir un âne et un bœuf pour le réchauffer. La présence de l'âne et du bœuf sont certainement historiques, mais sont une manière de manifester une prophétie d'Isaïe qui disait que l'âne reconnaîtra son maître et le bœuf son bouvier. Et c'est pour ça que l'âne et le bœuf sont là à reconnaître le Sauveur. C'est les premiers témoins de l'incarnation, de la venue du Sauveur. Ce témoignage que nous pouvons apporter, ce témoignage qui se manifeste à nos yeux, que nous portons, c'est-à-dire que la vision, la connaissance, l'expérience de cette nativité dans nos cœurs et dans le monde, c'est cela dont précisément ce monde a besoin. Et même si nous les uns et les autres, nous ne pouvons pas en témoigner verbalement et aller le proclamer dans le monde entier, c'est en le vivant humblement par notre conversion, par la pratique de nos sacrements, par l'expérience la plus fréquente possible de la liturgie, que de fait nous en témoignons, et c'est comme cela que nous devenons nous aussi des apôtres, puisque c'est notre vocation, pour proclamer au monde entier, mais humblement, la venue du Sauveur qui nous apporte cette vie éternelle.